VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériac et Claire Morin-Gibourg en direct de la capitale américaine, lundi 4 mars 2019, le monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
En Centrafrique, 5 groupes armés rejettent les nominations du nouveau gouvernement.
Le Tchad a fermé sa frontière avec la Libye jusqu'à nouvel ordre.
C'est la colère en Algérie suite au dépôt du dossier de candidature du président Bouteflika.
Dans le sud des États-Unis, de violentes tornades ont fait hier au moins 23 morts en Alabama.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
En Centrafrique, plusieurs groupes armés quittent l'accord de paix moins de 24 heures après la formation d'un gouvernement considéré comme inclusif. 5 des 14 groupes armés signataires le remettent en cause. Raïssa Girondin.
Le mouvement patriotique pour la Centrafrique, le MPC, l'un des principaux groupes armés issus de l'ex-rébellion Séléka, a estimé l'accord caduc. La décision intervient 24 heures après la formation du gouvernement. Un de ses membres fondateurs a été nommé ministre de la modernisation, mais ce groupe estime que le nouveau gouvernement est loin d'être inclusif. Ce lundi, deux autres groupes armés ont dénoncé l'accord de Khartoum. Le Front démocratique du peuple centrafricain dit se retirer du processus de paix car, selon lui, le nouveau gouvernement ne prend pas en compte les attentes des signataires de l'accord de Khartoum. Même son cloche pour le mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice. Peu après la publication des membres du gouvernement, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, le FPRC, considéré comme un des principaux groupes rebelles, avait annoncé de quitter cette nouvelle équipe. L'accord de Khartoum entre le gouvernement et 14 groupes armés est censé ramener la paix dans le pays.
Le Tchad a annoncé la fermeture de sa frontière avec la Libye un mois après l'intrusion d'une colonne rebelle venue du sud libyen. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous avons pris la décision de fermer la frontière entre le Tchad et la Libye jusqu'à nouvel ordre, a déclaré Mahamat Abba Ali Salah, ministre de la Sécurité. Il était en visite à Kouribougoudi, dans le nord-ouest du pays, théâtre d'affrontements meurtriers entre des orpailleurs et l'armée ces derniers mois. Le ministre de la Sécurité a ajouté que cette zone est devenue un carrefour de tous les malfrats, des terroristes et des rebelles. Monsieur Salah a précisé que toute personne qui va se retrouver dans ce site de Kouribougoudi sera considéré comme terroriste. Il a annoncé le désarmement de toute la population et l'interdiction formelle de l'orpaillage. Depuis 2017, N'Djamena a fermé ses 1400 km de frontière avec la Libye avant de la rouvrir partiellement quelques mois plus tard. Le nord du Tchad est lié au sud libyen où plusieurs groupes rebelles tchadiens ont établi leur base. Fin janvier, des frappes françaises ont stoppé l'avancée de rebelles tchadiens venus de la Libye.
Au Sénégal, une quinzaine de personnes, dont un ancien porte-parole de l'armée, ont été arrêtées pour trouble à l'ordre public et incitation à la révolte à la suite de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 février.
En République démocratique du Congo, plus d'un mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi ne parvient pas à former un gouvernement. Le Front commun contrôle la majorité au Parlement. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
RDC toujours, l'organisation de défense de la presse journaliste en danger, a dénoncé vigoureusement la condamnation du journaliste Steve Myanyo Iwewe à 12 mois de prison pour avoir couvert une manifestation pour la chaîne RTS dans une ville du nord-ouest du pays.
Au Nigeria, un gendre et un avocat du candidat de l'opposition, Atiku Abubakar, ont été arrêtés. La commission des crimes économiques et financiers a confirmé qu'une enquête pour blanchiment d'argent était en cours.
Au Soudan du Sud, le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont discuté aujourd'hui à Djouba des moyens de renforcer le processus de paix avec le président Salva Kiir. Un nouvel accord de paix a été signé en septembre à Addis Abeba, mais jeudi dernier, les évêques catholiques du pays ont averti que l'accord est en train de voler en éclats et que les parties sont prêtes à reprendre les combats.
Au lendemain de l'officialisation de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat, plusieurs Algériens ont manifesté leur colère. Le scrutin est prévu le 18 avril prochain. Abdourahmane Dia.
Aussitôt après l'annonce du dépôt de dossier de candidature de Bouteflika, de nombreux jeunes sont sortis dans les rues à Alger et plusieurs villes du pays. Aucun incident majeur n'a été signalé. Les manifestations ont continué une fois la nuit tombée. Les slogans « Non au cinquième mandat » et « Bouteflika dégage » ont résonné dans les rues d'Alger. La presse a largement commenté cette candidature. Selon El Watan, Abdelaziz Bouteflika a affiché son mépris à la face des Algériennes et des Algériens. L'engagement de M. Bouteflika d'organiser une élection présidentielle anticipée s'il est élu n'a pas réussi à calmer la contestation. Ce lundi, les Algériens ont pris le chemin du travail, mais beaucoup disent penser déjà aux nouvelles marches prévues vendredi. Le Conseil constitutionnel doit statuer avant le 14 mars sur les dossiers de candidature. Le retour en Algérie du président Bouteflika, 82 ans, hospitalisé en Suisse il y a plus d'une semaine, n'a toujours pas été annoncé.
La Ligue arabe a organisé en Tunisie sa troisième réunion de coopération et lutte contre le crime organisé. Son secrétaire général, Ahmed Aboulgheit, a indiqué que les troubles et l'instabilité dans certains pays arabes ont facilité l'émergence des groupes terroristes dans la région.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, les autorités de l'Alabama continuent la recherche d'éventuels survivants. De violentes tornades ont balayé hier le sud du pays, faisant au moins 23 morts. Le point avec Lionel Gaïma.
Ce bilan pourrait être révisé à la hausse car les équipes de secours fouillent les décombres. Rita Smith, porte-parole de l'Agence de gestion des urgences, a déclaré qu'environ 150 premiers intervenants sont impliqués dans ces recherches. Elle a ajouté que de nombreuses maisons ont été détruites ou endommagées à Beauregard, à environ 95 km à l'est de Montgomery, la capitale de l'Alabama. Le président Donald Trump dit avoir demandé à la FEMA, l'Agence fédérale de gestion des urgences, d'accorder un traitement A+ à l'Alabama. Les services météo ont émis plusieurs alertes concernant des violentes tornades en Alabama, en Géorgie, en Floride et en Caroline du Sud. Kay Ivey, gouverneur de l'Alabama, a déclaré l'état d'urgence afin de fournir de l'aide aux zones sinistrées. « Nos pensées vont aux personnes qui ont perdu la vie dans ces tempêtes », a écrit le gouverneur Ivey dans un tweet appelant à prier pour leurs familles et tous ceux dont les maisons ou les entreprises ont été détruites.
Aux États-Unis toujours, un ancien gouverneur du Colorado, le démocrate John Hickenlooper, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Et c'est le 12e démocrate à vouloir se lancer dans la course à la présidence, mais il faudra d'abord franchir les primaires. Parmi les autres candidats figurent le socialiste Bernie Sanders, les sénatrices Elizabeth Warren et Kamala Harris, ou encore le sénateur noir Cory Booker.
Conflit en Syrie, les forces arabo-kurdes se préparent à de nouvelles évacuations de civils depuis l'ultime bastion du groupe État islamique dans l'est du pays. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par des frappes aériennes américaines, ont repris l'offensive vendredi contre le village de Baghouz dans la province orientale de Deir ez-Zor.
L'armée israélienne a indiqué avoir frappé deux positions militaires du Hamas dans la bande de Gaza en réponse au lancer de ballons dotés de dispositifs explosifs en direction d'Israël depuis l'enclave palestinienne. C'est le troisième jour de suite que l'armée israélienne procède à des frappes de représailles contre des positions du mouvement islamiste.
L'opposant vénézuélien Juan Guaido était attendu malgré les menaces ce lundi au Venezuela où il a appelé ses partisans à se rassembler à la mi-journée dans tout le pays. À quelques heures de son arrivée à Caracas, les États-Unis ont mis en garde contre toute tentative d'attenter à son intégrité physique. quelconque menace ou action contre son retour en toute sécurité entraînerait une réponse forte et significative de la part des États-Unis et de la communauté internationale, a prévenu sur Twitter John Bolton, le conseiller à la sécurité de Donald Trump.
Le président Vladimir Poutine a officiellement suspendu la participation de la Russie au traité de désarmement nucléaire INF, signé avec les États-Unis pendant la guerre froide. Selon un décret rendu public par le Kremlin, la suspension est valable jusqu'à ce que les États-Unis cessent leur manquement à leurs obligations découlant du traité ou jusqu'à l'arrêt de sa validité.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La production céréalière au Sénégal est en nette amélioration avec plus de 2,7 millions de tonnes, soit une hausse de 8,7% par rapport à 2017-2018. Selon la direction de la prévision et des études économiques, cette performance est due à la bonne tenue de certaines cultures dont le riz, 133 000 tonnes, le maïs, 480 000 tonnes, le sorgho, 291 000 tonnes et le fognon, 4 000 tonnes. La Côte d'Ivoire veut construire pour 165 millions d'euros une usine de traitement d'eau potable à partir de la lagune à Guyenne et qui traitera de près de 150 000 mètres cubes d'eau par jour. La ville d'Abidjan devrait enfin pouvoir faire face à ses besoins croissants en eau potable. La Tribune rapporte que la clôture financière du dossier est prévue d'ici le troisième trimestre 2019, alors que la construction de l'usine devrait être achevée dans les 24 mois qui suivront. Pour finir, la Banque centrale du Zimbabwe a emprunté 985 millions de dollars auprès de banques africaines pour acheter du carburant et d'autres nécessités. Ces prêts seront remboursés à partir des gains futurs en or et ont une durée de 3 à 5 ans avec un intérêt pouvant atteindre 6%.
Et on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Raja Casablanca dénonce un massacre arbitral en Coupe CAF.
Puis après son match nul face à la Renaissance sportive de Berkane 0-0 hier, l'Aigle Vert demande à la CAF d'enquêter sur ce match sous peine de se retirer de toutes les compétitions africaines. Tenant du titre et toujours en quête de leur première victoire, les hommes de Patrice Carteron ont bien cru toucher au but dans le choc 100% marocain contre leur rival de la RS Berkane, mais les deux équipes se sont séparées sur un score de 0-0. Les Rajaouis accusent l'arbitrage du Camerounais Antoine Max Depadou Efa Essouma. L'officiel a d'abord refusé un pénalty pour un tirage de maillot de Mohamed Aziz sur Badr Benoun avant la mi-temps, puis un but au Raja Casablanca dans les dernières secondes. Écoutons l'entraîneur du Raja Casablanca, Patrice Carteron.
On a parfaitement maîtrisé du début à la fin. Au niveau défensif, on a été très bon. On n'a concédé aucune occasion de mémoire dans ce match et après on a su aller chercher la victoire. On nous a ôté de manière très suspecte. Maintenant, pas grand chose d'autre à dire, hein, si ce n'est que je suis extrêmement déçu pour les joueurs parce qu'ils méritaient de prendre les 3 points et on leur a privé de 2 points.
En face, la Renaissance sportive de Berkane se félicite de ce résultat et invite les joueurs du Raja à se focaliser sur leur jeu. C'est l'avis de l'attaquant burkinabé de Berkane, Alain Traoré.
C'est un très bon match. On a pris ces points qu'on voulait. Voilà, on ne voulait pas perdre surtout ce soir. Pour l'effet du jeu que les supporters du Raja ou les joueurs du Raja y parlent, je pense que l'arbitre a sifflé bien avant qu'il touche au ballon. Pour moi, il n'y a absolument pas but parce qu'il a sifflé bien avant et puis il y a faute. Je pense qu'il joue beaucoup avec le public, avec beaucoup de faits de jeu. Je pense qu'ils ont beaucoup de qualités pour jouer au ballon au lieu de jouer avec des faits de jeu.
Au Gabon, un joueur s'écroule et meurt en plein match.
Oui, malheureusement, on jouait samedi à la 23e minute du match missile FC Akanda FC lorsque l'attaquant akandais Herman Tsinga s'est écroulé selon le quotidien gabonais L'Union. Après un massage cardiaque effectué par un médecin militaire, le joueur âgé de 30 ans est finalement décédé. Lors de son transfert vers l'hôpital, d'après l'Union, les deux ambulances présentes sur les lieux n'étaient pas pourvues des équipements médicaux nécessaires pour sauver la vie du joueur. Écoutons les explications du ministre des Sports gabonais, Alain-Claude Bilibi Nzé.
Le championnat a démarré et il y a eu cet accident. Les joueurs d'abord sont les premiers concernés parce que tout simplement, un joueur doit d'abord savoir son état de santé lorsqu'il s'engage à un club. La deuxième responsabilité, c'est les clubs qui doivent en principe avoir une idée sur la forme du joueur par le canal des médecins qui tournent autour du club. C'est un accident qui est arrivé. Ce n'est pas le premier. Nous avons connu 2, 3 ou 4 en championnat national. C'est peut-être l'occasion également pour les organisateurs, la LINA, FEGAFOOT, ministère de la Jeunesse et des Sports, de jeter un regard sur le sérieux et le degré de professionnalisme de tout ce qui tourne autour de l'organisation du championnat.
Le ministre gabonais des Sports, Alain-Claude Bilibinze, au micro d'Antoine Nze Abissolo, notre correspondant à Libreville. Cet épisode est intervenu lors de la 2e journée du championnat qui, après 8 mois d'arrêt, a repris fin février.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guériac et Claire Morin-Gibourg. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
En République centrafricaine, quelques heures seulement après sa formation, le nouveau gouvernement fait déjà l'objet de contestations. Certains groupes armés, signataires de l'accord de Khartoum, sont montés au créneau et dénoncent une violation des termes de cet accord. À Bangui, pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
La première réaction a été celle du FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain. Ces combattants, basés dans le village de Zoukombo, sur le corridor Bangui-Gawamulai, ont interdit dimanche et lundi toute circulation sur cet axe. Une manière de dénoncer cette nouvelle équipe qui, selon eux, ne respecte pas l'accord de Khartoum. David Ngoko Barbou, maire de Baboua, a tenté en vain de les en dissuader.
Donc hier, à partir de 17h, ils ont commencé à bloquer la voie. Et quand même un saut pour aller écouter leur mécontentement. Ils m'ont dit que, bon voilà, ils sont mécontents par rapport au mouvement ministériel. Donc, à partir d'aujourd'hui, la voie sera bloquée.
Dans la foulée des réactions, le FPRC, l'aile dure de l'ex-Séléka, dit ne pas se reconnaître dans ce gouvernement. Pour exprimer son mécontentement, il a imposé ce lundi une journée ville morte en délai, son fief, allant jusqu'à chasser les enfants de l'école. Dans la classe politique, l'opposition dénonce elle aussi un gouvernement qui ne répond pas aux exigences de l'heure. L'ancien Premier ministre Nicolas Tchangaï, président du parti CRPS.
La première réaction que je peux avoir par rapport à ce gouvernement, c'est que, à mon avis, il n'y a pas de changement significatif par rapport à l'ancien. Or, je m'attendais à la mise en place d'un nouveau gouvernement qui crée un électrochoc, c'est-à-dire une dynamique nécessaire pour convaincre particulièrement les groupes armés, à respecter eux aussi leurs engagements. Et je ne pense pas que ce gouvernement-là réponde, n'est-ce pas, à cette exigence.
La plateforme de la société civile dénommée GTSC se réserve pour le moment de tout commentaire, mais appelle les groupes armés au calme et les autorités à la responsabilité. Paul Cresson Beninga, porte-parole.
Nous avons là affaire à un gouvernement qui n'est pas inclusif, que les groupes armés se calment d'entrée de jeu, et nous invitons le président de la République ainsi que le chef du gouvernement à ouvrir incessamment un pourparler avec les groupes armés ainsi que les organisations de la société civile qui ne se reconnaissent non plus dans ce gouvernement pour éviter effectivement que les conditions qui sont en train d'être créées pour faciliter le retour d'une paix qui se veut durable soit un travail vain, je veux dire.
Dans la capitale, l'homme de la rue n'a qu'une seule attente, le retour effectif de la paix.
On demande maintenant de voir premièrement l'état de Centrafrique et les populations centrafricaines, car nous sommes en train de souffrir.
Nous avons 8 femmes contre 5 par le passé. Donc c'est une satisfaction.
Suite à cette nomination, on sait pertinemment que le pays va avancer.
Le nouveau gouvernement contesté a été formé dimanche 3 mars. La quasi-totalité des membres de l'ancienne équipe sont non seulement maintenus, mais conservent également leur poste. 15 nouveaux entrants contre 21 anciens pour un total de 8 femmes. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présenté le week-end dernier à Kinshasa son plan d'urgence pour les 100 prochains jours. Un programme ambitieux qui annonce de grandes réalisations et réformes dans les domaines sécuritaires, sanitaires, de la justice et des infrastructures. De nombreuses réactions ont suivi cette annonce. La population, elle, attend la matérialisation de toutes ces promesses. Un reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au plan sécuritaire, le président Félix Tshisekedi a promis de ramener la paix à l'est de la RDC, au Kasaï central et à Yumbi dans le Maïndombe. Au plan politique, le président de la République a annoncé la libération très prochaine des prisonniers politiques et d'opinion et promis d'œuvrer à la mise en condition d'un retour rapide des exilés politiques. Pour ce qui est des infrastructures, le chef de l'État se dit capable de construire plus de 5000 km de route dans les 5 prochaines années. Il a par ailleurs promis la réhabilitation de certains hôpitaux de référence à travers le pays. Des promesses d'un changement rapide ont également été faites dans le domaine de la justice, l'éducation, l'habitat et dans la desserte en eau et électricité. En réaction, Grégoire Kiro, ancien député national et ressortissant de Bénin-Nord-Kivu, espère que cette promesse de paix à l'Est va se matérialiser.
La population de Bénin essentiellement attend de juger Félix Tshisekedi sur pièce. S'il parvient à extirper l'insécurité ici à Bénin, mais tout le monde va applaudir. Mais si ce n'est qu'un effet d'annonce, des discours comme on en a entendu depuis plusieurs années, eh bien, tout le monde va constater qu'il est aussi incapable.
Ferdinand Kambere, cadre du Fonds commun pour le Congo, la coalition de Joseph Kabila a également salué l'annonce de ce programme d'urgence. Et pour ce qui est de la justice, l'activiste Jean-Claude Katende espère qu'avec l'avènement du nouveau président de la République, elle œuvrera cette fois en toute indépendance et dans le respect des lois du pays. À ceux qui estiment que le président devrait attendre la nomination de son gouvernement pour faire appliquer son programme, Jean-Baudouin Maillot, cadre de la plateforme politique de Félix Tshisekedi, répond.
Le président a été investi, voici plus de 30 jours. On va être là à se regarder en attendant les conciliabules politiques qui peuvent s'arrêter ou s'étirer encore à longueur. L'État est un. Le premier ministre viendra, il va s'insérer dans ce programme.
Dans les rues de Kinshasa, les personnes interrogées salue cette série d'annonces du président et espère la matérialisation de toutes ses promesses.
Moi, je crois que le président Félix a lancé un signal fort pour dire à ses détracteurs qu'il est bel et bien le président en exercice en République démocratique du Congo, mais en même temps, il voudrait bien apaiser la situation politique. Vous le savez qu'avant les élections, la tension était vive. Son programme qu'il vient de décliner, l'aspect politique est le plus important.
Sur le plan infrastructure, je trouve que c'est un bon plan. Ça va permettre à ce qu'il y ait de mouvements, de déplacements. Sur l'éducation, je trouve qu'il a beaucoup plus axé sur la réhabilitation des écoles, mais il n'a pas tenu compte des agents de l'État, surtout des fonctionnaires. Leur arriéré des salaires, la majoration de leur salaire, bon, il n'a pas beaucoup plus tenu compte de ça.
À mon humble avis, ce plan des 100 jours se présente comme un plan quinquennal.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burkina Faso, la statue de Thomas Sankara fait polémique. Elle a été dévoilée samedi à Ouagadougou. Seulement voilà, les populations disent ne pas reconnaître les traits du visage de Thomas Sankara. Certains demandent même qu'elle soit refaite. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Aussitôt dévoilé samedi par le président du Faso Roch Kabore et l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, ami de Thomas Sankara, la statue du père de la révolution d'août 83 a été accueillie par de vives polémiques à Ouagadougou.
Le monument là, ça ne va pas. Ça ne va même pas du tout.
Serge Kalaga, un citoyen burkinabé.
De vie même, on sait que ça ne ressemble pas au père de la révolution. Chez nous, en tout cas, c'est très important qu'il ressemble en tout cas au père de la révolution. Les enfants peuvent tirer des leçons là-dessus, quoi.
Souleymane Nana sent même du copinage dans la réalisation du projet.
En fait, au regard du monument, on sent effectivement que le laisser faire là, ils ont peut-être balancé ça à un de leurs connaissants. Toutes choses-là se fait toujours par affinité. Par exemple, pour laquelle, quand on regarde le visage là, on sent vraiment qu'il n'y a pas une ressemblance.
Acculé, le comité international du mémorial Thomas Sankara a décidé de refermer la dite statue du capitaine Thomas Sankara et annonce de facto la finition des travaux. Face à la pression, surtout sur les réseaux sociaux, le comité lundi a présenté ses excuses au peuple. Luc Damiba, secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara.
Le comité mémorial Thomas Sankara
présente d'abord ses excuses pour les insuffisances constatées à l'endroit de tous ceux qui sont choqués par le manque de ressemblance de la statue avec les traits du président Thomas Sankara. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon au président du FASO. Nous demandons pardon aux parents, Kiri Gang-Rawlings. Nous demandons pardon aux parents des victimes. Nous demandons pardon aux populations du Burkina, d'Afrique et du monde. Nous apprécions surtout la grande vigilance de toutes les personnes qui ont constaté pour formuler leurs conseils et offrir leurs services.
Et ce n'est pas tout. La statue sera reprise. Nathalie Yam, représentante du président Rawlings.
Tout le monde doit vraiment être rassuré que l'œuvre finale reflétera fidèlement la vision du Thomas Sankara que nous connaissons tous et que même ceux qui ne sont pas ses contemporains connaissent à travers les livres, à travers les ouvrages, à travers les différents médias.
Les membres du comité international du mémorial Thomas Sankara se donnent 2 mois pour finaliser la statue qui, tous espèrent cette fois-ci, ressemblera à Thomas Sankara. En attendant au Conseil de l'Entente, l'endroit où le capitaine Thomas Sankara a été assassiné en octobre 87, la statue reste fermée. Mais cela n'arrête pas pour l'heure l'indignation et la colère des populations. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, les associations féminines se mobilisent pour dénoncer les viols et abus sexuels sur les filles et femmes. À l'occasion, des témoignages sont enregistrés sur les cas recensés au quotidien dans les familles, les quartiers, établissements scolaires et milieux professionnels. Et selon les statistiques du gouvernement camerounais, 1,5 million de Camerounaises sont concernées par les viols et abus sexuels. À Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le bourreau souvent même peut être frère aîné.
La parole se libère et les témoignages s'enchaînent.
Dans le pire des cas, c'est le père, alors vous êtes très mal parti pour résoudre ce problème.
Une quinzaine de femmes prennent part à un atelier d'échange sur les victimes de violences sexuelles dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Les phénomènes concernent ici de nombreuses jeunes filles et femmes. Jeanne Telon est membre de l'association Femmes Autonomes de la Briqueterie, un quartier populaire de la capitale.
Nous avons une jeune fille qui a été violée par son oncle paternel. Elle est même tombée enceinte. Elle a eu un bébé de lui. Sa famille estimait que c'était un linge sale qui devait se laver au sein de la famille. Ça fait qu'ils ont eu à déplacer la fille pour qu'on n'ait plus de traces.
Les jeunes filles scolarisées sont aussi comptées parmi les victimes de viols et abus sexuels. Mais elles optent très souvent pour le silence, témoigne Fadima Tounana, conseillère d'orientation principale au lycée technique de Yaoundé.
Comme ça, nous faisons en sorte que l'enfant se sente en sécurité. Nous donnons à l'enfant des astuces pour pouvoir survivre au traumatisme. Et dans les cas pareils, le problème ne résulte pas que de l'enfant. Il faut que ça soit stoppé au niveau de la famille.
Il ressort d'une récente étude de santé publique que sur une population de 37 719 filles et femmes camerounaises, 5,2% ont été victimes de viol et près d'un quart avaient moins de 10 ans au moment du viol. Clarisse Othélé, assistante sociale pour l'association de lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est le voisin qui abuse, c'est le père qui abuse, c'est le camarade de classe qui abuse, c'est l'inconnu aussi qui abuse les enfants. Donc on reçoit tous ces cas-là tout au long de l'année.
Co-fondatrice de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, Élise Pierrette Poumenou pense que la question de violence sexuelle sur la jante féminine au Cameroun tarde à être considérée par les pouvoirs publics en dépit de quelques avancées.
Aujourd'hui, de plus en plus de familles portent plainte parce que leur fille est victime d'un viol. Les jugements sont rendus et nous pensons qu'il y a une évolution. Mais on n'a pas eu de loi spécifique contre les violences faites aux femmes. On a travaillé dans le code de la famille. On n'a toujours pas vu ce code validé.
Signe que la ligne rouge, 3 Camerounaises ont brisé le silence sur les viols et abus sexuels dont elles ont été victimes dans un film documentaire projeté le 2 mars dernier à Douala. La productrice Laetitia Tonyaloui, une jeune Camerounaise, a elle-même été victime d'abus sexuels. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA.
La fin de cette édition, à la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Adrius Regus,
À la présentation, Morgane Guerriec et Claire Morin-Dubourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h24. Au revoir.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.